une race de nains bienfaisants qu'on appelle kobolds et qui sont un peu parents des gnomes, ces génies souterrains. Ce ne sont pas de grands sorciers, mais ils emploient leur pouvoir à faire le bien seulement, ce qui les distingue de beaucoup d'enchanteurs et de fées. Par une nuit pluvieuse et malsaine du mois de décembre, deux kobolds cheminaient avec peine dans les rues d'une petite ville dont le nom ne me revient pas. Ils tâchaient d'éviter la pluie, car ils étaient à peine vêtus de quelques méchantes guenilles, et l'eau qui leur tombait sur le cou ruisselait en liberté jusqu'à leurs talons. Ils cherchaient un abri sans en trouver, et n'osaient pas heurter aux auberges, car ils n'avaient pas d'argent et ne voulaient pas faire rire de leur petite taille. Enfin, ils arrivèrent sous un auvent qui s'avançait assez loin dans la rue et qui les garantit de l'averse qui tombait. Un petit banc était adossé à la muraille, et ils furent bien heureux de s'asseoir pour se reposer un peu et se réchauffer en se serrant l'un contre l'autre. « Cette maison, dit un des nains, doit être habitée par de bonnes gens. On voit qu'ils ont pensé aux voyageurs, accablés de fatigue ou trempés de pluie, qui passeraient devant chez eux. Faire le bien sans intérêt est l'indice d'un bon cœur.
Si j'en juge par cette porte délabrée et par l'aspect de la maison, lui répondit son compagnon, ces gens-là doivent être pauvres.
C'est en souffrant soi-même qu'on apprend à compatir aux douleurs des autres. L'échoppe devant laquelle il s'était arrêté appartenait en effet à un honnête cordonnier, qui n'était pas aimé de la fortune. Il travaillait de tout son cœur, mais il ne gagnait pas assez pour faire vivre son ménage, et il était arrivé à un tel excès de misère qu'il ne lui restait avec ses outils qu'un morceau de cuir assez grand pour en faire une paire de souliers. La veille au soir, il l'avait coupé et taillé dans le dessein de le coudre le lendemain de bonne heure. Le souci de l'avenir l'empêchait de dormir bien fort. Et il lui sembla distinguer des voix qui s'entretenaient à sa porte. Il réveilla sa femme pour la prier d'écouter avec lui, mais ils n'entendirent plus rien. Avant de se rendormir, ils causèrent de leurs affaires, sans se douter qu'ils pouvaient avoir des témoins. Ils convinrent de s'en remettre à la Providence, car ils avaient la conscience pure, et au bout d'un quart d'heure, ils dormaient d'un paisible sommeil. Aux premières lueurs de l'aube, le cordonnier sauta de son lit, et après avoir dit ses prières, il se disposa à se mettre à la besogne. Son étonnement fut grand quand il vit les souliers qu'il voulait coudre parfaitement achevés et placés sur son établi, l'un à côté de l'autre. Il les examina de près. Jamais il n'avait rien vu de comparable comme exécution. C'était un vrai chef-d'œuvre dans son genre. Il était encore abîmé dans ses réflexions quand une de ses pratiques entra pour lui demander une paire de chaussures. Le pauvre homme fit quelques difficultés pour se séparer de celles qu'il tenait à la main. Mais elles plurent si fort au client qu'il en offrit un prix plus élevé que de coutume. Le cordonnier accepta, et avec l'argent qu'il reçut, il acheta du cuir pour faire deux paires de bottes. Il passa la journée à tailler avec soin les semelles, les tiges, les empeignes et tout ce qu'il lui fallait pour son travail du lendemain. Puis il soupa et se coucha sans tarder, afin de se lever avec le jour pour se mettre à l'ouvrage. Il s'endormit difficilement, troublé par une curiosité mêlée d'un peu d'espoir. À l'aurore, il s'habilla promptement et courut vers son établi. Il y trouva les bottes cousues dans la perfection, aussi brillantes que solides. Il ne pouvait se lasser de les admirer. Le seigneur du pays passa devant sa porte dans la matinée et remarqua les bottes qu'il avait exposées. Il voulut les essayer. Elle lui allait si bien qu'il les garda et paya généreusement le bon ouvrier. Ce manège continua quelque temps encore. Le cordonnier achetait le meilleur cuir et passait son temps à le tailler dans les règles, car il était habile dans son métier. Il disposait sur sa table les outils et les pièces préparées, et l'ouvrage se trouvait fait au point du jour. Il ne tarda pas à devenir riche et ne savait comment remercier le ciel du miracle qui s'opérait chez lui. Un soir, c'était vers les fêtes de Noël, comme il était au coin du feu avec sa femme, il lui dit « Ne voudrais-tu pas, ma chère Gertrude, savoir qui vient ici la nuit ? Nous n'aurions qu'à veiller une fois, et nous surprendrions nos bienfaiteurs sans doute. » « Oui, dit-elle, mais s'ils tiennent à ne pas être vus, nous les blesserons certainement. » « Aussi, dit-il, nous nous cacherons derrière un rideau, et nous ne bougerons sous aucun prétexte. Ils nous croiront endormis dans notre lit, que nous fermerons soigneusement. » Gertrude, naturellement curieuse, approuva fort cette idée. Et la nuit venue, ils se mirent à l'affût, après avoir éteint toutes les lumières. Dès que minuit sonna, ils entendirent un bruit léger et virent deux petits hommes se glisser chez eux en soulevant une planche disjointe qui tenait à peine à leur porte. Le premier tenait une lanterne qui répandait un jour suffisant. Ils s'approchèrent de l'établi où le cordonnier leur avait taillé de la besogne, s'assirent et s'emparèrent des outils, du cuir et du fil. Leur travail se faisait avec une rapidité merveilleuse. On pouvait à peine suivre de l'œil leurs petits doigts qui perçaient, rognaient et cousaient les chaussures avec une adresse qui jetait le cordonnier dans l'admiration. Mais ce qui lui toucha le cœur, c'est que les deux nains étaient à peu près nus. Comme le froid était vif et que la bise entrait dans la maison mal close, ils grelottaient sur leur banc et redoublaient d'activité pour se réchauffer. Ils ne partirent que lorsque l'ouvrage fut entièrement terminé, et ils disparurent en un clin d'œil, sans laisser d'autres traces de leur passage que les bottes et les souliers cousus, artistement disposés sur la table. Les bonnes gens se couchèrent, et la femme dit à son mari, « Nous devons notre fortune à ces bons nains. Je voudrais leur en témoigner notre reconnaissance. L'hiver est rigoureux, et ils n'ont pas de vêtements pour se garantir du froid. » « Apparemment, dit le mari, qu'ils n'ont pas crédit chez le tailleur. Il faut pourtant si bien peu de choses pour les habiller. Si vous le permettez, je leur ferai à chacun une petite chemise, une veste et un pantalon. Je prierai notre voisin, le marchand de jouets, de me laisser prendre mesure sur ses poupées. » « C'est bien dit, répondit le cordonnier. Et de mon côté, je leur ferai des bottines où je n'épargnerai pas la façon. » Ils travaillèrent plusieurs jours avec beaucoup de zèle, sans que les nains cessassent de venir pendant la nuit. Quand leurs cadeaux furent prêts, ils les étalèrent sur la table où ils avaient l'habitude de placer les chaussures à coudre. Puis ils se cachèrent derrière le rideau qui leur avait déjà permis de connaître leur bienfaiteur. À minuit précis, ceux-ci pénétrèrent dans la maison comme à l'ordinaire et s'avancèrent vers l'établi pour se mettre au travail accoutumé. Quand ils aperçurent les petits habits, ils restèrent sans parole, tant leur ravissement était extrême. Saisis d'une folle joie, ils s'emparèrent des vêtements et se mirent à gambader par toute la chambre avec une agilité inouïe, modérant toutefois leur transport pour ne pas troubler le sommeil de leurs hôtes qu'ils croyaient endormis. Ils s'habillèrent en faisant mille cabrioles et en s'admirant mutuellement de la meilleure foi du monde. Ils semblaient fort pressés d'aller se montrer à leurs amis. L'un d'eux, avant de sortir, prit une haleine et traça ces mots sur la table. « Vous n'avez pas été ingrat. nous ne le serons pas non plus. Il ne nous est pas permis de revenir, car vous nous avez vus sans doute. Mais le bonheur restera avec vous. » Ils s'éloignèrent aussitôt. Et bien qu'on ne les ait pas vus reparaître, tout continua à prospérer dans le ménage du bon cordonnier, qui devint la gloire de son état et finit par ne chausser que des têtes couronnées.